Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, vous trouvez actuellement en Syrie. Pourriez-vous nous faire votre analyse de ce qui s'est passé à Raqqa tout récemment, Monsieur Meyssan, dont le contrôle a été repris par les forces soutenues par les États-Unis au groupe terroriste Daesh?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, sur l'importance de Raqqa. Contrairement à ce que l'on dit, Raqqa n'est plus depuis longtemps déjà la capitale de l'État islamique, c'est Deir ez-Zor. Donc, ce que l'on présente comme une très grande victoire est en réalité certainement une victoire, mais l'une parmi d'autres batailles. Deuxièmement, cette victoire s'est faite avec une terrible brutalité, puisque les États-Unis se sont lancés dans un bombardement gigantesque, comme s'ils étaient au Vietnam. Hein. La ville est entièrement détruite. Troisièmement, un certain nombre de responsables Raqqa ont d'abord été exfiltrés par les forces spéciales des États-Unis. Donc la bataille, c'était contre des troupes qui n'avaient plus de chef, et les chefs, nous le savons aujourd'hui, ont été exfiltrés en Amérique. Et ça a eu lieu. Alors, au dernier moment, les combattants qui se trouvaient là se sont rendus à la suite d'un accord avec la coalition internationale pro-États-Unis. Donc, oui, c'est une victoire, mais enfin, c'est une toute petite victoire, en réalité.
Alors, mais sans, ces membres de Daesh ont été exfiltrés, d'après vous. Ils ont été exfiltrés par qui? Ils ont été transférés où, monsieur Meyssan?
Ils ont été exfiltrés par les forces spéciales des États-Unis. Il y a de très nombreux témoins de cela, parce que les hélicoptères sont arrivés de manière très visible, et les responsables de Daesh qui sont partis avec leurs femmes et leurs enfants. Donc, il y a eu une première opération avec une vingtaine de chefs et leurs familles. Donc leurs familles, et au moins 100 ou 150 personnes qui sont parties avec eux. Donc il y a énormément de témoins de tout ça. Et puis après, il y a eu une deuxième opération où ils ont exfiltré, semble-t-il, simplement deux familles, peut-être d'autres hommes, je ne sais pas, et au moins deux familles de dirigeants de Daesh. Donc après, personne ne sait où ils sont partis. Et les services secrets russes nous assurent, et d'habitude ils sont très bien renseignés, nous assurent que, à la surprise générale, en fait, ils ont été transférés en Amérique latine.
Mais c'est récent. Alors peut-on dire que, en fait, l'objectif des Américains n'est absolument pas d'en finir avec Daesh, et ce groupe reste toujours Syrie va servir toujours d'un outil au service des États-Unis.
Et je ne pense pas qu'on puisse dire cela non plus, parce qu'actuellement, aux États-Unis, il y a deux pouvoirs qui se concurrencent. Il y a d'un côté la Maison-Blanche qui cherche absolument à détruire Daesh, et peut-être aussi les autres djihadistes, mais ça, il va falloir vérifier avec le temps. En tout cas, c'est sûr que le président Donald Trump est tellement opposé à Daesh, et il a dans sa propre armée et à la CIA des gens qui font exactement l'inverse. Parce que d'un point de vue des services secrets des États-Unis, se priver de Daesh quand on a fabriqué soi-même cet instrument et qu'on l'a utilisé à la fois contre le gouvernement irakien et contre le gouvernement syrien, il aurait dû qu'à un moment ça fonctionnait. Donc se priver de cette... Et se priver d'une arme importante.
Monsieur Meyssan, bon, pour le moment, Raqqa est sous le contrôle des forces soutenues par les États-Unis, sous le contrôle des États-Unis. Selon des informations, ces forces s'étaient emparées également d'un majeur gisement dans cette région. Quel sera, d'après vous, désormais la réaction, l'attitude tout d'abord du pouvoir syrien, également de ses proches alliés, la Russie, l'Iran, face à ce qui se passe désormais à Raqqa, M. Messant.
Alors, d'abord, à Raqqa, il n'y a plus d'habitants du tout, ce sont des ruines. Donc, faire revenir la population à Raqqa, ça va être très difficile et probablement assez long. Même si, dès aujourd'hui, les États occidentaux disent qu'ils vont à toute vitesse reconstruire la ville, bon, peut-être, mais ça, même à toute vitesse, ça va quand même demander des mois et des années. Hein. D'autre part, les Occidentaux font semblant d'être venus en appui des forces kurdes qui se trouvaient là. Et pour ne pas dire que c'est les forces kurdes, on a créé la FDF, qui sont une coalition, dit-on, avec des Allemands, des Arabes chrétiens et des Arabes sunnites qui sont venus se greffer sur les forces kurdes. En réalité, sur le terrain, les combats ont été menés par les États-Unis. Et les quelques Kurdes et les quelques Arabes et Assyriens qu'on a amenés n'étaient là que devant les caméras de télévision. Mais la bataille a été menée par l'armée des États-Unis. Point final. Hein.
Alors, vous dites que la bataille a été menée, M. Messant, par l'armée des États-Unis. Alors, l'objectif des États-Unis n'est-il pas de faire désormais, par exemple, de Raqqa comme leur principale base militaire en territoire syrien également?
Évidemment, les États-Unis ont installé déjà 12 bases militaires sur le territoire syrien sans aucune autorisation. Il s'agit de petites bases. Bah, s'ils s'installent à Raqqa, ça dira certainement de quelque chose de beaucoup plus vaste.
Alors, pour le moment, il y a en fait ce qui se passe à Raqqa, il y a en fait ce qui se passe à Deir ez-Zor, et également il y a ce qui se passe à Idlib avec cette présence militaire turque. Peut-on envisager également une possible confrontation, M. Messant, je parlais de la confrontation militaire, entre ces divers acteurs qui sont présents en territoire syrien?
Jusqu'à présent, tout l'organité civique, ils font état. C'est pas reconnu. La Turquie et la Syrie, entre la Turquie et les États-Unis, etc. Tout le monde évite ça. Parce que si on se lançait dans ce genre de choses, alors la guerre prendrait une dimension que plus personne ne pourrait maîtriser. Donc, il faut avoir en tête que les Turcs, lorsqu'ils sont entrés à Idlib, venaient en réalité, ils racontent que c'est pour lutter contre les djihadistes, mais évidemment, ça n'est pas vrai, ils venaient pour ôter les prétentions des Kurdes à étendre leur territoire jusqu'à la Méditerranée. Donc ça, comme on sait maintenant, ça ne sera pas possible. L'intérêt, bien sûr, de ce territoire, mais ça n'est ni de rentrer en guerre contre des Kurdes soutenus par les États-Unis, ni de rentrer en guerre contre la Syrie. Donc ils vont probablement rester, longtemps d'ailleurs, rester dans la situation actuelle. Pour ce qui est des Kurdes que l'on a mis en avant à Raqqa, là la situation est différente. Parce qu'ils ont très bien compris que personne ne les soutiendrait. Ils cherchaient à créer un État indépendant en annexant ce territoire, puisqu'on a très bien vu ce qui s'est passé récemment en Irak, où les Kurdes d'Irak avaient, à la suite d'un référendum truqué d'ailleurs, d'un référendum proclamé un État indépendant, et en fait immédiatement, l'armée irakienne est venue libérer les territoires que les colons kurdes avaient occupés depuis déjà quelques années à Kirkuk. Donc, à ce moment-là, le gouvernement de M. Barzani avait dit qu'il était soutenu par 80 États dans le monde, et que si on envahissait, ces États viendraient le soutenir. Or, personne n'a levé le petit bras. Hein. Tout le monde a admis qu'il fallait libérer Kirkouk et que les Kurdes, à cet endroit-là, étaient des occupants sans droit et sans titre. Donc, ils se sont repliés. Et tout le monde sait que si la même chose en Syrie, ça se passera de la même manière. Les Kurdes n'ont aucun droit sur le territoire qu'ils réclament en Syrie. Quoi qu'en raconte la presse occidentale. Territoire qui leur appartient, qui est actuellement en Turquie, qu'on fasse l'État kurde chez les Kurdes. On ne va pas recommencer la même histoire avec l'État d'Israël où on transporte des gens d'Europe pour faire un État au Proche-Orient, ça n'a aucun sens.